Messieurs, moi je voulais quand même vous interroger sur ce temps. Alors évidemment, nous sommes au cœur du week-end pascal. Il y a une décision très attendue, on l'a encore évoqué avec le sénateur Christian Cambon à l'instant, vendredi, le Conseil constitutionnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, demain, lundi de Pâques, donc la bonne excuse, c'est de se dire que c'est férié. Mais il y a quand même ensuite mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on ne sait pas à quelle heure ça va tomber. Donc, c'est pareil. Il y a ce temps infernal, cette semaine dingue là, qui arrive où on a l'impression qu'on va tous se transformer en statue de sel, William P.
La démocratie est suspendue à la décision du Conseil constitutionnel.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe du coup ?
Non, mais on peut le déplorer. Mais il y a quand même des avantages, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un état de droit. Et donc, du coup, il y a des vérifications par un juge constitutionnel pour savoir si les dispositions adoptées ou la procédure adoptée par le gouvernement est légale. Je pense quand même que la procédure a été un peu abusive sur certains points, dans la mesure où certains points n'ont pas été dans le cadre de la loi de finances de sécurité sociale et qu'elles peuvent être retoquées par le Conseil constitutionnel. Et puis, ça pose également une question sur la procédure. Mais après, la question que vous posez, c'est le clivage entre le modèle qu'on affronte et sur lequel on affronte actuellement, c'est le clivage entre les modèles dits démocratiques et libéraux et les modèles dits autoritaires. Les modèles autoritaires sont plus rapides et beaucoup plus rapides. Ils arrivent à construire des ponts en une semaine, des hôpitaux en une semaine, etc. Ils décident plus rapidement.
Ou d'encercler Taïwan.
Encercler Taïwan, où ils peuvent envahir un pays en opération spéciale en moins d'un jour. Par contre, le pendant de ça, c'est que vous n'avez pas de droit individuel. Et l'avantage de prendre plus de temps, c'est que un juge constitutionnel permet de protéger les droits individuels, les droits des citoyens, les droits des parlementaires, des députés à déposer un recours pour, en cas de procédure abusive, si par cas elle se retrouve constituée comme abusive par les juges constitutionnels.
Frédéric Dabi.
Oui, j'ai en tête un livre de mon ami Gilles Fickenstein, le patron de la Fondation Jean Jaurès, qui s'appelait La dictature de l'urgence. C'est vrai qu'on est toujours soumis à une urgence. On a l'impression que depuis le 15 janvier, présentation du projet de loi par la Première ministre, le 19 janvier, la première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les Français et, on va dire, le microcosme, pour citer Raymond Barre, le microcosme politico-médiatique a été dans une sorte d'essoreux sur cette réforme des retraites. J'ai envie de dire, qui correspondait à une réalité. Dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, on voit que ça a été ce mois-ci le premier sujet de préoccupation des Français. Tout ce qui était autour des retraites était très fortement questionné. Les mobilisations, le recours au 49-3 par la Première ministre, mais j'ai envie de dire, la vie des Français continue. Il y a toujours cette inflation qui obsède, qui inquiète et qui bouleverse les repères. Il y a, il faut le dire aussi, un grand débat, et je ne suis pas... Je ne fais pas un pas de côté pour ne pas répondre. Un grand débat sociétal sur la fin de vie qui commence de plus en plus à imprégner les débats chez nos concitoyens. Mais c'est vrai qu'il y a ce temps qui semble suspendu avec des figures imposées qui vont venir. Le Conseil des ministres, un énième,
mais tout
douzième.
Tout est gelé. On parle de la fin de vie. C'est totalement, pardonnez-moi, mais c'est totalement lunaire. On sait très bien que, justement, et Christian Cambon était là tout à l'heure, il devait y avoir au Sénat la présentation de la loi Darmanin-Dussopt sur l'immigration. On sait que c'est retardé, reporté.
Mais à quand
on ne le sait pas. J'avais ici Olivier Dussopt à votre place, Frédéric, il y a quelques semaines, qui disait « je ne sais pas ». Et il était bien sincère parce que lui-même ne savait pas que ça.
Mais c'est vrai que c'est en ça que le gouvernement s'est mis dans un coin, il s'est cornérisé pour parler en mauvais anglais, dans la mesure où on a l'impression que le quinquennat, son début, parce que pour beaucoup de Français, ce quinquennat n'a pas vraiment commencé, en tout cas, sa pérennité, sa continuité est suspendue à cette décision du Conseil constitutionnel. Ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé en 2006, où tout s'était arrêté en France au moment du CPE. On se souvient que la loi avait été votée, elle n'avait pas été censurée par le Conseil constitutionnel, mais Jacques Chirac n'avait finalement, après la promulguer, avait décidé de ne pas l'appliquer. C'est le rêve que caressent beaucoup d'opposants à la réforme des retraites, mais je trouve qu'il y a un moment de tension particulier. Tension parce que, comme vous le dites très bien, Pierre, le temps s'est arrêté jusqu'à vendredi, on ne sait pas quelle heure, mais la tension, elle est dans le regard des Français sur cette réforme, réfutée, rejetée à un niveau qui n'a jamais baissé. Quand on regarde les personnes intéressées, concernées, les salariés, on est sur du 75-118% de non-adhésion à cette réforme. Et dans le même temps, il y a cette certitude qu'elle allait être votée, elle a été votée, et qu'elle va être appliquée.
Ouais. Alors il y a une chose aussi, et on en parlait avec Christian Cambon à l'instant, je disais, est-ce que vous pensez que les choses vont fondamentalement changer après le vendredi 14 ? Quelle que soit la décision, il me répondait non. Je pense qu'on est plusieurs à penser de cette même manière. Et puis, de manière concomitante, hier, à votre place, William T., il y avait le délégué de la CGT du Val-de-Marne, Benjamin Hamard. Et quand je lui disais, mais est-ce que vous respecterez la décision du Conseil constitutionnel ? Bon, on avait bien compris qu'il la respecterait s'il retoquait la loi, puis il ne la respecterait pas quand il ne retoquerait pas la loi. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe vendredi. Je ne sais pas si les choses vont vraiment changer.
Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est est-ce que la décision du Conseil constitutionnel, qu'importe qu'il y ait une censure partielle, une censure complète ou une validation complète, ait un impact sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron, sera un impact sur la réforme des retraites. Et moi, je pense qu'il y a un autre sujet que vous abordez sur pourquoi est-ce que vous avez une semaine qui est bloquée. Pourquoi est-ce que lorsque vous interrogez Olivier Dussopt, il est incapable de vous dire quel est l'agenda législatif? C'est qu'en fait, le temps n'est pas suspendu à la réforme des retraites. Le temps est suspendu parce que potentiellement, avec la réforme des retraites, le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé. Ouais. Parce qu'en fait, il a quasiment plus de capital politique. Frédéric Dabif publie des enquêtes d'opinion régulières sur le duo exécutif. Et jamais le président de la République n'avait atteint un taux aussi bas depuis la crise des Gilets jaunes. Et c'était son niveau record du plus bas. Or, ma théorie, c'est qu'on ne peut pas gouverner la France avec moins de 33% d'opinion favorable. Lorsque vous avez moins de 33% d'opinion favorable, vous arrivez dans ce que j'appelle la spirale de la loose qui vous empêche de mener toute action.
Loose.
Et c'est en fait,
copyright, oui.
Ça veut dire qu'en fait,
la spirale de la loose.
Vous arrivez à un moment, en fait, vous endiguez, vous effondrez, en fait, inévitablement. Hormis s'il y a une crise extérieure, choc extérieur, type guerre, etc., qui pourrait relancer le président de la République, ce qui a été le cas de la crise des Gilets jaunes, mais actuellement, il ne peut pas se relancer. Le changement de Premier ministre ne lui permettra pas de redonner un nouveau souffle. Un éventuel retrait du texte version Jacques Chirac l'enliserait, le conduirait à l'immobilisme. Et donc, du coup, les méthodes d'action qu'il puisse avoir sont très faibles. Et je pense que c'est ça le point essentiel du cas de Macron. C'est qu'en fait, il a gaspillé tout son capital politique pour une victoire potentiellement à la Pyrrhus vendredi prochain.
Frédéric Dabi,
je partage pas complètement le point de vue de William. C'est vrai que effectivement le capital politique a été dilapidé. On est demain, ça sera l'anniversaire du premier tour des présidentielles.
C'est vrai.
On n'est même pas à la première année, à la fin de la première année du quinquennat. C'est vrai que pour reprendre votre belle expression, Emmanuel Macron, il faut quand même se souvenir qu'il est sorti trois fois de la spirale de la loose en termes d'impopularité depuis le début du premier quinquennat. Automne 2017 avec le vote des lois sur le travail. Après les Gilets jaunes avec le coup de génie du grand débat et on va dire le parti de l'ordre et une partie de la droite qui l'a soutenu. Et au moment du Covid. C'est vrai qu'un quatrième rebond paraît aujourd'hui compliqué. Alors, et là où je me permets de ne pas être d'accord avec vous, William, c'est qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Emmanuel Macron a deux choses. La durée et la solidité de nos institutions qui ont permis à un François Mitterrand, lors de son second mandat, en fin de second mandat, encore plus impopulaire que lui, de gouverner sans problème, la cohabitation, par exemple, et qui a permis à des présidents très impopulaires, je pense au Nicolas Sarkozy de 2010-2011, au François Hollande de 2015-2016, après les attentats, d'être également en situation de gouverner. Mais effectivement, là où je vous rejoins, un capital politique est nécessaire pour pouvoir imprimer et impulser des réformes. Il a un atout que n'avait plus François Hollande, et c'était même compliqué pour Nicolas Sarkozy, sa base électorale, c'est-à-dire son socle du 10 avril 2022. S'il s'est un petit peu érodé, répond toujours présent. Il a en gros 75 à 80% de soutien, mais effectivement, une réforme de retraite qui serait retoquée, ce n'est peut-être pas la fin du quinquennat, mais ce sera très compliqué pour, je dirais, réenchanter le récit de ce son mandat.
Mais alors, comment est-ce qu'on peut remettre, j'allais dire, du carburant pour repartir? Parce que là, vous êtes quand même, en tout cas vous, William, extrêmement pessimiste sur la suite.
Moi, je pense que pour pouvoir avancer, il faut... En fait, il a fait une erreur fondamentale qui est l'élection présidentielle. C'était la meilleure tactique pour se faire réélire président de la République, parce que ça imposait un choix par défaut, dans la mesure où les Français ne voulaient être représentés ni par Jean-Luc Mélenchon, ni par Marine Le Pen, et qu'ensuite, après, il s'est fait élire donc du coup par incarnation et par l'effet drapeau provoqué par la guerre en Ukraine. Mais pour autant, il n'avait pas donné de projet clair. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de base électorale assez large pour pouvoir embarquer les Français vers une direction. On ne sait pas quel est son véritable projet politique depuis l'élection présidentielle. Dans quelle direction il va emmener le pays? En 2017, on le savait. Il y avait le livre Révolution, il voulait lever et déverrouiller les mobilités géographiques, sociales.
Libérer, protéger.
Et il voulait libérer, protéger. Donc du coup, on avait un projet qui était très clair, associé à un projet européen de modernisation de la France dans l'Union européenne. Là, cette fois-ci, vous n'êtes pas du tout dans le même projet. On ne sait pas s'il est plutôt sur une ligne gaulo-mitterrandienne en termes d'affaires étrangères ou sur une ligne plutôt multilatérale, progressiste comme ce qu'il a pu faire en 2017. Sur le plan intérieur, on sait qu'il veut gérer l'ordre des finances publiques, mais son image est brouillée en termes de finances publiques parce qu'à chaque fois qu'il fait une réforme dite pour réduire les dépenses publiques, en même temps, il faut une politique de chèque à destination des jeunes pour calmer des éventuels mouvements sociaux. Donc en fait, sur les questions de dépenses publiques, sur les questions d'économie, sur les questions régaliennes, la loi immigration que vous évoquiez, c'est à la fois restreindre l'immigration, mais en même temps ouvrir à certaines immigrations. Donc en fait, sur l'ensemble des plans, on est sur du en même temps, mais qui ne permet pas de donner un cap, une projection. Et je pense que tant qu'il ne donne pas de cap, tant qu'il ne donne pas de projection, il n'arrivera pas à embarquer les Français, à obtenir des ralliements soit de la gauche, soit de la droite. Et je pense que c'est la mort de la méthode Borne, qui est de faire des coalitions de projets par texte par texte.
Mais il y a une... Effectivement, on se souvient de la campagne 2016, la transformation, transformer le pays, mettre à terre le clivage droite-gauche qui a... je me souviens très bien d'une interview de Benjamin Griveaux qui était un des lieutenants d'Emmanuel Macron et qui disait mais non, il faut d'abord faire le diagnostic du pays. Et il ne voulait pas lâcher le fait qu'Emmanuel Macron serait candidat pour En Marche. Et il disait mais non, il faut d'abord, avant d'incarner, parce qu'on a trop incarné, on a trop voté pour des personnes. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment remettre à plat la façon, le logiciel politique de la France. Ce clivage droite-gauche qu'on voulait tellement enterré dans l'équipe macroniste Frédéric Dabi, il y a eu un premier petit signal dimanche dernier lors de la législative partielle où on a vu une dissidente socialiste gagner face à une NUPES de gauche. Et ça, voilà, les Français... Il aime bien leur clivage gauche-droite quand même.
Oui, je pense qu'il n'a pas disparu loin de là. Alors c'est vrai qu'il est, il est moins prégnant. Il y a des grands sujets sur lesquels les positions des Français se positionnant à gauche et ceux de droite se sont beaucoup rapprochées. La sécurité, l'insécurité, c'est toujours une préoccupation plus de droite que de gauche, mais ça c'est énormément, les points de vue ont beaucoup convergé. Les services publics, l'attachement des Français maintenant dépasse la gauche et à droite. On peut trouver beaucoup de thèmes, mais c'est vrai qu'une part, il y a beaucoup de sujets sur lesquels le clivage de droite demeure prégnant. Alors ce qui est vrai par rapport aux années passées, par rapport à cette période, j'ai envie de dire, béni pour le clivage gauche-droite, où ce clivage gauche-droite se superposait sur un système politique. La bipolarisation, c'était gauche-droite, donc ça matchait. Là, on est dans un système multilatéral, multipolaire, avec différentes nuances. La partielle de l'Ariège, je suis content que vous en parliez, Pierre, parce que pour moi, ça a été un événement très important sur le plan politique. D'une part, ça montre que l'incapacité de la France insoumise à élargir un bon socle de premier tour, et tout le monde est tombé par terre avec le résultat de cette élection partielle, c'est le copier-coller, si je puis dire, de ce qui s'est passé en juin dans la deuxième circonscription de l'Ariège, juste à côté, je crois que c'était à Pamiers, où le sortant LFI a été battu par un socialiste dissident. Ça montre qu'il y a un tout sauf Mélenchon qui est quand même très fort chez les Français, et c'est vrai que ça montre une fois de plus que là on revient à cette question, non pas du clivage gauche-droite, mais que se passe-t-il à gauche, qu'il y a un vrai souci, un vrai malaise que je trouve de plus en plus fort, même si l'Ariège, c'est pas... On va pas en tirer des...
Le malaise, c'est qu'il y a une disparition totale des sociodémocrates et que la France en a besoin.
Oui, voilà, ils ont gagné dans cette partielle. Mais malaise pour moi, c'est que le centre de gravité du peuple de gauche, des sympathisants de gauche, de ceux qui se positionnent à gauche sur un axe gauche-droite, est un peu moins à gauche que le centre de gravité de la NUPES, puisqu'il y a cette équation qui demeure forte chez les Français, NUPES égale LFI, LFI égale Mélenchon.
William T.
Je suis plutôt d'accord, et puis pour aller sur ce même point, il y a un enseignement du sondage qui vous avait sorti dans le Figaro magazine. C'est-à-dire que le bloc de la NUPES, malgré la réforme des retraites qui traditionnellement profite à la gauche, comme en 2010 où ça avait permis à la gauche de monter et de mettre sous propulseur Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal et François Hollande vu la présidentielle de 2012, là ne profite pas à la gauche. C'est-à-dire que quand vous regardez le bloc électoral, qu'importe les hypothèses, le bloc de la NUPES est strictement le même que celui de la dernière fois. Et même pire que ça, Jean-Luc Mélenchon baisse. Et il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est que le seul candidat de gauche qui arrive à faire monter ses intentions de vote, c'est Fabien Roussel, celui qui s'exprimait le plus en opposition à la stratégie de Mélenchon et de la NUPES. Donc ça souligne en fait qu'au sein de la gauche, la stratégie Mélenchon a ses limites. C'est comme si Jean-Luc Mélenchon était un peu le Jean-Marie Le Pen des années 2020. C'est-à-dire que c'est à peu près pareil à front renversé. C'est-à-dire qu'il est très fort dans un premier tour, il aborde des thèmes, il est très médiatique. Par contre, il crée un repoussoir électoral et il transforme LFI comme une sorte de Rassemblement National de gauche ou de FN de gauche. Oui. Et donc, du coup, ça crée une impasse pour la gauche dans la mesure où est-ce qu'ils peuvent se reconstruire avec un parti aussi repoussoir. En tout cas, c'est...
Il y a quelque chose d'intuitu personné à Jean-Luc Mélenchon et ça a été surtout, je ne sais plus en quelle année, il y a eu cette perquisition des locaux de LFI.
2018,
où La République, c'est moi. Oui. Et là, on a tous été, nous, observateurs, d'accord pour dire que ça a été, il s'est cramé, quoi. Il a cramé sa carrière politique le jour où il a eu ce genre de propos, c'est-à-dire que même au sein de Frédéric David.
Je pense que ça n'a pas quand même empêché de faire une campagne présidentielle incroyable et d'être aux portes du second tour comme en 2017. Mais c'est vrai que cet événement de la perquisition, plus d'autres, plus une certaine brutalité, une remise en cause des institutions, un langage extrêmement dur, mais la manière dont il parle, par exemple, aux journalistes, j'ai souvenir de ce qui s'est passé à BFM récemment.
Chez Maxime, Soutek.
Encore plus fort.
Hallucinant.
Jamais Jean-Marie Le Pen n'a parlé comme ça à des journalistes.
Jamais.
Et c'est vrai que, alors on va dire, c'est le microcosme qui se parle, mais je suis frappé de voir à quel point, dans les traits d'image comparés, Jean-Luc Mélenchon inquiète plus les Français que Marine Le Pen ne les inquiète. Et sur un item, et vous parlez d'un sondage récent, parlons-en un autre, sur l'image de Marine Le Pen, 58% des Français considèrent qu'elle est attachée aux valeurs démocratiques beaucoup plus que Jean-Luc Mélenchon.
Merci Frédéric Dabi, merci William Tay pour ce débat passionnant. On aurait pu parler encore des heures avec vous. 18h58, dans un instant le journal de 19h, juste après l'Expo Ramsès et les œufs en chocolat. Mais d'où viennent-ils? À tout de suite.